Salut Daniel, j'ai une bonne nouvelle. Le chômage est en baisse. Ma femme vient de recevoir sa lettre de radiation de la NPE. Donc la France ira mieux grâce à monsieur Dominique de Villepin. L'objectif devrait être atteint pour les 100 jours. Salut Daniel.
Salut Mermet, salut Humbert, salut à tous les auditeurs. C'est Pechenot de Villeneuve-la-Guyard en Lyonne. C'est juste pour dire que, encore une fois ce matin, dans un quotidien, peu importe lequel, je lis « Réformer notre modèle social ». Mais pourquoi faut-il toujours réformer le modèle social et jamais, au grand jamais, réformer le modèle économique ? C'est une chose qui en devient presque agaçante, quoi. Toujours et toujours et toujours réformer le modèle social. Allez, bon, je vous souhaite malgré tout une bonne journée et à bientôt à tous. Allez, salut.
Bonjour Daniel Mermet, j'ai écouté ton émission sur mai 68 et aussitôt je me suis revue à Saint-Denis à l'usine Marcel Rochas avec un mois de grève. D'ailleurs, toute la classe ouvrière était en grève à ce moment-là et je me rappelle la fraternité, la solidarité entre nous. Si vous m'écoutez, Polo et Andrea et tous les autres, je vous laisse mes coordonnées pour rentrer en contact avec vous. Je m'appelle René, hein, ça doit vous rappeler quelque chose. D'ailleurs, il y avait pas que les étudiants dans les rues. Nous y étions aussi. Alors, les moutons noirs, réveillez-vous, battez-vous pour mettre hors jeu tous ces incapables qui, soi-disant, vous représentent. Salut.
J'écoute, entre hier et aujourd'hui, votre émission sur cette jeunesse qui ne manifeste pas. Et j'ai entendu le petit Martin qui parle bien et c'est réconfortant. J'ai entendu aussi ces gens du 9-3 qui pratiquaient un cynisme bon enfant et qui parlaient d'un œil raciste et d'un œil matérialiste. Et ça m'a touché. Et puis aujourd'hui, au départ de votre émission, c'était le vieux bonhomme usé. Et j'ai pensé, d'ailleurs, vous en avez parlé assez rapidement à Serge Julie, auquel il faut ajouter Cohn-Bendit. Et vous aurez compris à ma voix que je fais partie de cette génération-là. Et que il faudrait laisser à nos enfants de l'espace pour vivre et ne plus monopoliser. On est vieux et faut qu'on laisse la place. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est pas mal ce que vous faites et je vous en remercie. Je m'appelle Marie. Au revoir.
Bon, c'est la petite goutte d'eau du boulevard Saint-Michel et des manifestations qui se réveillent. Eh bien oui, on nous a volé ce qui s'est passé. J'ai plein de choses à dire. Je le vis encore aujourd'hui tous les jours. J'étais fille d'ouvrier, je suis tombée dans un théâtre, le Théâtre 8 à Chaville. Mélange de classes incroyable. Toutes les classes de la société étaient représentées. Tout était possible. Les gens qui venaient nous faire du théâtre venaient du TNP. Deux fois par semaine, des professionnels. Certains qui sont encore sur la scène, ainsi que des acteurs. Ça m'a ouvert toutes les portes. Je n'ai passé aucun diplôme, j'ai inventé plusieurs métiers. Et à 60 ans, j'ai inventé la danse libre. Je danse encore avec les enfants, je les fais rêver, je leur dis que tout est possible. Je crois que mai 68, ça a été des rencontres, un mélange de classes et surtout une énorme utopie. Mais je voudrais savoir s'il y a beaucoup d'autres gens comme moi qui ont vraiment cru. Et j'y crois encore. Donc j'ai 60 ans, j'ai eu 5 enfants, j'ai 6 petits-enfants. Et j'invente et je continue mon mai 68 toute seule en pleine campagne. À bientôt.
Merci. Je voudrais avoir l'orthographe et le titre exact et l'éditeur de mai 68 et ses suites que je viens d'entendre là sur la base si j'y suis. Merci d'avance et bravo pour toutes vos émissions.
Mai 68 et ses vies ultérieures. Voilà le titre du bouquin dont on a parlé hier avec l'historienne américaine Christine Ross. c'est aux éditions Complexe. Mai 68 et ses vies ultérieures, Christine Ross, aux éditions Complexe. J'espère que Polo et Andrea ont entendu le message de René. Si c'est le cas, Polo et Andrea, vous pouvez nous joindre. Vous pouvez joindre là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37, qui est le numéro de téléphone du répondeur de là-bas si j'y suis. Aujourd'hui, une question. Servitude volontaire, servilité sincère, conformisme, larbinisme, goût de plaire, que choisir pour dire ceux qui fabriquent l'opinion, ceux qui chaque jour collaborent à la grande orthopédie médiatique. Difficile de trouver le mot, mais soyons justes, de temps en temps, une voix s'élève à rebrousse-poil, un récalcitrant qui tombe de l'armoire et qui brise l'omerta de la sacro-sainte corporation. Un exemple, dans l'hebdomadaire Marianne du 1er juin, on s'intéresse à regarder un petit peu dans le rétroviseur ce qui s'est passé dans les 6 derniers mois. Eh ben la réponse est dans le titre « 6 mois d'intox ». Irak, Proche-Orient, Arabie Saoudite, Ukraine, etc. On nous avait dit qu'un vent de démocratie parcourait toutes ces régions du monde. Bidon, faux, dit Marianne. Et prends un autre exemple, Hugo Chavez. Hugo Chavez et le Venezuela. Si vous dites Chavez, 9 fois sur 10, on va vous dire populiste, dictateur, Le Pen de gauche, etc. Même si Chavez, depuis 1998, a remporté 9 élections démocratiques dans son pays, même si ce pays se débat, même s'il y a un grand mouvement populaire dans ce pays, peu importe, peu importe. Et eh bien Marianne dit bah non, pas du tout, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Chavez, ça ne vaut pas autant d'indignité, une indignité basée évidemment sur la méconnaissance, l'ignorance. On se suffit généralement de quelques bons gros clichetons et puis on les répète unanimement. D'où l'intérêt de cette heure de la Vassie suis autour d'un gros bouquin qui est paru il y a quelques jours, quelques semaines, de Maurice Lemoine, que vous connaissez. Maurice Lemoine, il est rédacteur en chef adjoint au Monde diplomatique et c'est un des meilleurs, on va dire spécialistes, ça va l'agacer, je sais bien, mais enfin c'est quand même un petit peu ça, de l'Amérique latine. Et ce bouquin s'appelle Chavez, présidente, et c'est notre balade et notre sujet du jour dans la base où j'y suis.
Oui, CGT PTT de Gironde. Je vous appelle, je vous lis le texte, suite à l'émission d'hier sur mai 68. Je veux vous donner un exemple qui se passe en Gironde. La France aurait bien besoin aujourd'hui d'une ville ultérieure à mai 68. À l'exemple du non à la Constitution qui a exprimé un grand mécontentement social, la gouvernement est aux abois et a tendance dès lors à manier le bâton. Je veux donner l'exemple du centre de tri de Bègle. Le 25 mai, des syndicalistes ont retenu des cadres lors d'un CHSCT suite à un conflit qui mettait en cause 51 suppressions d'emplois et la remise en cause des horaires de travail de nuit essentiellement. Alors ils les ont retenus lors d'un CHSCT. Ces cadres n'ont subi aucune violence physique. De la nourriture leur a été proposée. La Poste a mis un terme à ce qu'elle appelle une séquestration en envoyant le GIPN, traitant les syndicalistes comme des terroristes. A suivi une garde à vue de 36 heures pour 9 syndicalistes. Et à ce jour, 14 syndicalistes au total sont menacés de lourdes sanctions pénales, d'une part, administratives, pouvant aller jusqu'au licenciement et la révocation. Des débrayages et grèves ont eu lieu dans toute la France jusqu'à hier, à La Poste. Aujourd'hui, un contractuel de droit privé, le premier passe un entretien préalable à licenciement. Le 21 juin, la CGT-PTT sera dans la grève interprofessionnelle à l'appel de la CGT et la Confédération. Voilà la situation aujourd'hui, un exemple parmi d'autres qui fait poindre le nez de l'État policier. On aurait bien besoin d'une autre vie pour mai 68 aujourd'hui. Au revoir.
Salut Daniel, c'est Jean-Paul de la Croix-Rousse à Lyon. Alors c'est ça leur nouvelle magouille, on repousse la signature du traité constitutionnel jusqu'à 2007, le temps pour les Français de virer Chirac et que le nouveau président, main sur le cœur et auréole ripollinée, appelle à un nouveau référendum responsable bien sûr. Il devrait pourtant savoir que quand on se réveille à la politique, c'est généralement pour plus longtemps que 2 ans. Allez, salut et mort au con.
Allô, Bruxelles ? Le Conseil européen ? Vous m'entendez ? Allez-vous enfin comprendre qu'il s'agit non pas d'asservir les populations à l'économie, mais de mettre cette économie au service des peuples européens. Viser la croissance du PNB, oui. P comme pour, N notre, B bonheur. Voilà, c'est un noniste de d'Ardèche.
Hey, bonjour à tous. Alors, ce matin, c'est Barnier qui revient à la charge, à la radio, chez vous. Encore une fois, les partisans du oui qui ont été déçus de notre vote, pourtant tout à fait démocratique et représentatif de l'opinion de la population française, n'en reviennent pas et veulent remettre en question les résultats de ce référendum. C'est pénible, Barnier, arrête! Ce n'est pas de l'Europe que les partisans du non voulaient se débarrasser. C'est justement des idées comme les tiennes. C'est des mecs comme toi. Voilà. Alors, stop! Maintenant, plus d'Europe et moins de blabla comme les tiens. C'est fini, ça. Pénible. Merde. Quand même. Allez, au revoir tout le monde.
Bonjour, ici Marité de Gif-sur-Yvette et des amis de la Confédération Paysanne. Donc voilà, demain va se dérouler la deuxième journée de position aux OGM, tant en France qu'en Europe et même en Bolivie. Nous, en Ile-de-France, le lieu de rassemblement sera le long du canal de l'Ourcq, sur le quai de Seine, dans le 19e arrondissement. Il y aura des conférences, de la musique, un accordéoniste, de la restauration et de l'activité pour les enfants. Nous vous souhaitons très nombreux. Plusieurs organisations participent et soutiennent ces manifestations. La Confédération Paysanne, ATAC, Greenpeace, France Nature Environnement, Agir pour l'Environnement, les Amis de la Terre sont aussi partenaires. OGM d'Angers, la revue L'Écologiste, Nature et Progrès et bien sûr les Amis de la Confédération Paysanne. À demain.
Allá sí estoy, dígame.
Allá sí estoy.
La paz,
la paz
y la cuis.
La cuis.
Salut, c'est la Bassi, j'y suis, Daniel Mermet, avec Maurice Lemoine, Chavez, Presidente.
Flight number two, arriving from...
República Bolivariana de Venezuela.
La Bassi, Luis,
Luis. Pasamos por el frente Miraflores, al norte está Palacio Blanco, pasamos por la oficina, por el despacho del presidente de la República.
Y
estamos llegando
a Palais de Miraflores. Y là, on est alors...
A este puente Yaguno. Aquí fue el. Se reunió la gente el 13 de abril.
Ici, le 13 avril 2002.
Defendió porque ellos, la policía la pusieron de avanzada para que viniera la gente del este.
Eso es bueno para los venezolanos. Estupendo, porque detrás.
Caramba, para mí.
Et bien pour moi c'est vraiment une grande chance et une grande émotion de pouvoir saluer un camarade et un ami sur des moments très difficiles qu'on a vécu ici à Caracas pendant le coup d'État. Il nous a donné un exemple de journalisme, il nous a montré son courage et il nous a transmis son courage à nous tous qui étions autour de lui pendant qu'il prenait ses photos. Alors on embrasse très fort Maurice et tout le peuple français. Parce que cette révolution les aime. C'est un Gracias. Exemple pour nous.
Preséntate. Jesús Reyes.
Jesús Reyes.
Soy un trabajador de taxi.
Je travaille en taxi
en
ici à Caracas.
Y soy un hombre convencido.
Je suis un homme convaincu dans ce processus révolutionnaire.
Para que lleguemos definitivamente un país libre, un
pays libre et souverain. Merci.
Voilà, Maurice Lemoine, ça c'est un message qu'on vous a rapporté. De Caracas avec avec Antoine Chao, c'est un certain chauffeur de taxi qui s'appelle Jesús, hein, c'est ça,
Jesús Reyes.
Jesús Reyes, oui. Qui parle de vous, qui parle de Maurice Lemoine et qui dit que vous êtes un très grand journaliste.
Ouais,
dans quelles conditions vous l'avez connu?
Alors Jesús Reyes à Caracas, il est connu comme étant le taxiste staliniste. Bon, qui est un jeu de mots avec marxiste-léniniste.
Taxiste-léniniste.
Je suis pas sûr qu'il est léniniste d'ailleurs. Bah, je l'ai connu quand j'étais en reportage, donc en avril 2002, et en particulier au moment du coup d'État. Et il faisait partie de ces taxis dont on parle finalement, nous, journalistes, assez peu souvent, et qui parfois nous aident.
Un fixeur. Non, c'est pas un fixeur. C'est pas
un fixeur. Non, Caracas, ça va, c'est quand même pas si dur que l'Irak. mais qui nous aident beaucoup parce qu'ils connaissent, ben, ils connaissent la ville, ils connaissent les quartiers, et donc on peut passer un coup de téléphone en disant Ressus, tu peux m'emmener à Caricuao ou à Petare. Et puis évidemment, comme on s'est connus dans un moment particulièrement particulièrement chaud, et que pour les Vénézuéliens, le coup d'État est resté très présent, il se trouve que le fait que j'ai raconté ici en France, en l'occurrence, mais à travers le diplôme, ce qui s'est réellement passé au moment du coup d'État à Caracas, fait que ben, ça m'a attiré la sympathie d'un certain nombre de Vénézuéliens. Ça m'a aussi, il faut le dire, attiré l'antipathie de pas mal d'autres.
Oui. Alors, nous, c'est la sympathie ici, hein. C'est plutôt, c'est quand même, faut quand même bien dire les choses. Il y a quand même plutôt de la sympathie. Et alors, tout ça, ça a donné ce gros bouquin qui s'appelle Chavez Presidente, chez Flammarion. Et alors, c'est un très gros bouquin de 862 pages. Vous avez renoué avec une tradition du reportage, celle de, d'Albert Londres, de Kessel, de Baudard, d'Hemingway, etc., qui consiste à raconter les choses, à les mettre en scène avec une petite partie de fiction. Mais sinon, tout est absolument rigoureusement vrai et surtout rigoureusement vécu.
Oui, c'est vrai. J'ai lu, lorsque je lis ou lorsque j'entends les médias, que ce soit ici ou en Espagne ou ailleurs en Europe, parler du Venezuela, de la révolution bolivarienne, de Chavez, j'ai l'impression de lire du roman. Alors je me suis dit, bah, après tout, je vais prendre le contre-pied et je vais écrire un roman pour essayer de raconter la réalité. Et je me suis appuyé pour raconter tout ça sur, alors d'abord sur ma connaissance du terrain, sur ce que j'ai vu au moment du coup d'État, mais aussi en particulier sur une commission d'enquête qui a été lancée par l'Assemblée nationale vénézuélienne quelques semaines après le coup d'État, et devant laquelle tous les protagonistes du coup d'État, aussi bien ceux qui ont renversé Chavez que ceux qui l'ont ramené au pouvoir, sont venus témoigner, y compris le patron des patrons, y compris Chavez lui-même. Ce qui fait que tout ce que je mets dans la bouche de mes personnages, ils l'ont dit.
Vous appelez ça un docu-roman. Il y a 30 ans, on appelait ça un reportage. Une façon captivante de raconter ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, et ce sur quoi on a travaillé aussi.
C'est souvent ce qui m'a passionné dans ce métier de journaliste, en fait. C'est pas uniquement les analyses sèches, alors on est tous capables d'en faire, hein, vous comme moi, mais c'est aussi de raconter l'histoire du monde. Qui a pris la peine, à part vous, et on n'est pas en train de se renvoyer l'ascenseur, hein, mais d'aller voir les paysans vénézuéliens dans le cadre de la réforme agraire. C'est pourtant pas compliqué, franchement, mais vous et moi, on n'est pas plus malins que les autres.
Alors justement, Maurice, on a un document, on a un autre message qu'on a rapporté du Venezuela lors de nos reportages.
Alors là, on va quand même faire plaisir à nos amis du Monde Diplomatique, parce que ça, c'est un article du Monde Diplomatique de Maurice Lemoine, d'octobre 2003, qui s'intitule « Terre promise du Venezuela ». Et là, on est dans un des villages dont il est question dans le papier, avec on est tous les villageois sont autour de nous. Le porte-parole de ce village, enfin de cette communauté, s'appelle Zapata, et on a quelques lignes qui concerne Zapata et qui concerne tout le village. Et tous les villageois sont autour de nous, et donc on va traduire, Antoine Chao va traduire, ce petit passage qui concerne le village. Voilà, c'est un retour à... ça s'appelle un retour à l'envoyeur.
C'est que l'article se llama Tierras prometidas en Venezuela. Il voy a leerles este cacho sobre Santa Lucía.
Voilà, alors Antoine Chao est en train de traduire ce papier, c'est le passage à l'article du Diplo, écrit par Maurice Lemoine. On est à Santa Catalunya, un village du Venezuela, dans le Yaracuy, et voilà, c'est un papier sur les paysans sans terre, en lutte contre les très méchants et affreux propriétaires. Donc tout le monde, tout le village est autour de nous et écoute la traduction rigoureuse, bien sûr, qu'Antoine Chao est en train d'en faire.
Sobre qui han tirado gasolina.
Les sicaires et tout le monde a qui est.
Eso lo dijo Zapata, lo dijiste tú entonces. Eso mismo. Uno de los líderes de la cooperativa. Alrededor, las pintas son flacas y se ve la gente un poco cansada, ¿no? Aunque el tribunal ha emitido una medida de protección en patrullas de la Guardia Nacional, tú sigues diciendo que se siguen viendo pantaneros de lapipostes por aquí y que tiran en el aire y os amenazan y os provocan para que vosotros respondáis de manera a poder justificar la violenta represión que sí. Sois víctimas.
Hola.
Esto está dicho y escrito. ¿Te parece correcto?
Me parece correcto.
¿Correcto?
Gracias.
Alors là,
estamos agradecidos, pues. Agradecido de la visita de ustedes también como la de los compatriotas que reseñaron esto.
De votre visite y de collègues qui ont écrit cet article.
Porque hablan de su lucha en Francia.
Sí. Ojalá tuviéramos el honor de verlos más seguidamente por acá.
J'espère qu'on aura le plaisir et l'honneur de vous recevoir à nouveau par ici.
Voilà, ce petit extrait du monde diplomatique que vous avez...
Bah, c'est très émouvant, hein. Faut lire les choses comme elles sont. On a affaire à des gens qui ont été murés dans le silence pendant très longtemps. C'est-à-dire que, et ça nous amène à parler des médias vénézuéliens, personne ne s'est jamais intéressé à eux. Ils ont toujours été considérés comme le pays de seconde zone. Les médias internationaux viennent rarement les voir. Donc effectivement, quand ils voient arriver un Français, mais ça serait un Anglais, ça serait pareil, ils ont envie de parler, ils ont besoin de s'exprimer. Et si, dans le cas présent, ils trouvent qu'ils n'ont pas été trahis, c'est pour eux un sentiment de réconfort, et je crois que pour nous, c'est vrai que ça réchauffe.
Alors, on parle, à Maurice Lemoine, on parle des médias vénézuéliens, on va y revenir, vous en parlez évidemment dans votre bouquin, mais on peut parler aussi des médias français. Il y a une diabolisation extraordinaire de Chavez, du Venezuela, de la révolution bolivarienne, et aussi une occultation du peuple vénézuélien.
Oui, il n'existe pas dans les médias vénézuéliens eux-mêmes, puisqu'on a toujours considéré qu'il s'agit d'une zone rouge peuplée de délinquants, d'analphabètes, la turba, la chusma, comme on dit là-bas, la racaille. Bon. Donc il n'existe pas. Et c'est vrai que les médias... Alors on peut comprendre que dans un premier temps, les médias étaient méfiants. Je veux dire, on a affaire à un ancien militaire qui a tenté un coup d'État en 92. Les militaires, on sait ce que c'est en Amérique latine. Donc qu'il y a une méfiance légitime, ça peut se comprendre. J'ajoute que, y compris nous, au monde diplomatique, au début, on a regardé ça avec un peu de circonspection. Qu'est-ce que c'est que ce militaire? Ensuite, on tombe dans une dérive totale. Je veux dire, le dernier exemple, je ne vais pas reprendre les citations que je fais souvent sur Chavez populiste, Chavez national populiste, Chavez national populiste tropical. Mais encore, il y a 15 jours, il y a 3 semaines, on retrouve encore Alexandre Adler, qui doit aller souvent au Venezuela, on sent la pertinence de ce qu'il écrit, nous parler des mâchoires de primates de Chavez. On est là à la limite de l'insulte raciale. Il y a aussi le fait, en ce qui concerne les médias qu'on situe à gauche ou au centre-gauche. Le fait que lorsque Chavez tente son coup d'État en 1992, il le tente contre le président Carlos Andrés Pérez, qui appartient à la social-démocratie, qui a financé les campagnes électorales de Felipe González. Donc en fait, Chavez s'en est pris à un ami. Et ça explique en grande partie l'hostilité de la gauche à son égard pendant très longtemps. Ça s'assouplit un petit peu, et en Espagne en particulier, ça s'assouplit avec l'arrivée de Zapatero, mais il reste des rancœurs, hein, il s'en est pris à un ami. On omet de dire, par exemple, que Carlos Andrés Pérez, qui a été ensuite destitué pour corruption, vit un exil doré, c'est un des hommes les plus riches d'Amérique latine, entre Saint-Domingue et Miami, alors qu'il a passé toute sa vie au service de l'État. On se demande comment il est devenu aussi riche. Bon, si on recontextualise pas ça, on ne peut pas comprendre.
Maurice Lemoine, donc ce bouquin Chavez président, Flammarion, c'est sorti il y a quelques semaines et c'est 800 pages d'un docu-roman. Alors appelons ça un docu-roman où vous racontez finalement autour d'une journée que vous avez vécue comme journaliste et comme reporter le 11 avril 2002, ce fameux coup d'État. Mais d'abord, on va vous demander de faire un peu de pédagogie, rappeler un petit peu la situation du Venezuela brièvement et puis un peu l'aventure de Chavez.
Alors, ce qui m'a fait rire dans votre question, c'est le brièvement. Vous savez bien que j'ai du mal. Venezuela, pays pétrolier, cinquième producteur mondial de pétrole, qui dès dans les années 70 devient le Venezuela saoudite du fait de la crise pétrolière qui voit arriver des sommes énormes dans le pays puisqu'il touche l'équivalent de 20 plans Marshall. C'est pas mal, hein. Bon, qui pendant cette période jette 70% de sa population en dessous du seuil de pauvreté. Bon. Une classe moyenne qui se constitue sur le pétrole. C'est l'époque où les Vénézuéliens qui vont faire leurs emplettes à Miami sont connus comme les Stabarata. Alors Stabarata, c'est la contraction de deux mots espagnols, et Stabarata, c'est pas cher. Hein. Ils sont connus aussi comme les Damedos, donnez-moi deux. D'ailleurs, on a de l'argent, on en achète deux. Évidemment, l'embellie pétrolière se termine, et le Venezuela qui s'est endetté, se retrouve dans une situation économique catastrophique, et à ce moment-là, protagoniste connu, le Fonds monétaire international intervient, ajustement structurel, et donc la révolte dont je vais parler tout à l'heure, le Caracaso, 3000 morts. Bon. On a dans ce pays une génération de jeunes officiers qui sont entrés dans l'armée au début des années 70, Chavez y rentre en 71, qui sont écœurés par cette démocratie corrompue, hein, et qui conspirent, on peut le dire, depuis 1982, hein, puisque en 1982, Chavez, sous le chaman de Guerre, qui est l'arbre sous lequel Bolivar venait se recueillir, fait un serment avec quatre de ses camarades. Nous jurons que nous ne prendrons ni repos ni trêve jusqu'à ce que le peuple soit débarrassé de ses chaînes. En gros, là, je... C'est un truc très militaire, très. Hein, c'est bon. Et donc, la conspiration se fait doucement au sein de l'armée. Le Caracaso, évidemment, porte la situation à son paroxysme. Et 92, Chavez tente son coup d'État. Il le rate. Et là va se passer un élément extrêmement important, c'est que pour la première fois au Venezuela, quelqu'un assume ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il est présenté devant les caméras de télévision, il appelle ses camarades qui combattent encore à arrêter les combats en leur disant, écoutez, là c'est pas la peine, on a raté notre coup. Il dit, je suis le responsable de ce coup, je l'assume, nous n'avons pas atteint nos objectifs, por ahora, pour l'instant.
Ah voilà, c'est ça.
Et ça résonne.
Pour l'instant,
dans tous les quartiers populaires de Caracas, dans les campagnes, au fond des bidonvilles, le pour l'instant. Et il y a un fait intéressant, c'est que au moment de ce coup d'État, la population ne descend pas dans la rue. Elle ne descend pas dans la rue pour appuyer Chavez et ses camarades qu'elle ne connaît pas. Et on ne sait pas si c'est des militaires, après tout, d'extrême droite ou de gauche, on sait rien. Mais en même temps, elle ne descend pas dans la rue pour défendre la démocratie. C'est une affaire entre militaires, la population ne bouge pas. Et néanmoins, Chavez va devenir très rapidement l'homme le plus populaire du pays. Il est emprisonné, il est amnistié au bout de 2 ans parce qu'il y a une énorme pression sociale et que pour détendre cette pression, le président Caldera libère Chavez. Chavez reprend son activité politique, confirme qu'il veut prendre le pouvoir et au terme d'un débat au sein de son mouvement, décide qu'on va le prendre par la voie démocratique. Et donc il se présente aux élections en 80, il commence sa campagne en 96, avec une hostilité des médias permanente. Quelques semaines avant l'élection, on lui donne 6% des bulletins de vote, hein, les sondages. Il va les gagner évidemment très largement, et à partir de là, va commencer ce qu'on appelle la révolution bolivarienne. Entre le moment où il est élu et le moment où va avoir lieu le coup d'État à son encontre, il n'y aura pas un opposant politique arrêté, il n'y aura pas un média fermé, il n'y aura aucun signe de ce qui pourrait constituer une dictature. Hein. Entre-temps, il a... je vais parler de la Constitution. Hein. Il y a eu l'élaboration d'une nouvelle Constitution. Alors, c'est pas 5 technocrates qui se sont réunis dans une pièce pour faire la nouvelle Constitution. On a élu une constituante. La constituante a délibéré, y compris avec les Indiens, des constituants indiens, des constituants venant des minorités. La constitution a été prouvée par référendum. Et c'est là que vont commencer les problèmes, en réalité, pour Chavez, puisque, par exemple, elle interdit la constitution de privatiser l'entreprise nationale de pétrole, puisque, par exemple, elle introduit la notion de sécurité alimentaire pour le pays, puisque, par exemple, elle donne des droits aux autochtones, aux Indiens, hein, en gros, des droits que sont ceux que réclament les zapatistes. Et c'est vrai que chez nous, on s'est beaucoup passionné pour les apatistes, sans souvent se rendre compte qu'au Venezuela, il se passait quelque chose d'important pour les Indiens, puisqu'ils ne sont pas nombreux, hein, ils sont 240 000 sur 25 millions d'habitants, mais pour la première fois depuis l'arrivée de Chavez, il y a un gouverneur indien, il y a des maires indiens, bref, une constitution qu'on peut considérer, y compris les adversaires de Chavez, considèrent comme une des plus avancées d'Amérique latine. Bon. Et ensuite, il va rentrer dans la phase sociale de son projet, avec, et là c'est le feu aux poudres, hein, là c'est vraiment le casus belli, l'approbation en novembre 2001 de 49 décrets-lois, dont la loi de réforme agraire, dont la loi sur les hydrocarbures, dont une loi de la pêche. Et là, évidemment, l'opposition rentre frontalement en conflit. Oui, voilà. Et c'est ce qui va amener au coup d'État. À partir de ce moment-là, on commence à préparer le coup d'État d'avril 2002.
Oui, mais ce qu'il faut bien souligner encore une fois, c'est l'extraordinaire inégalité qui caractérise ce pays. Hein. On a une petite classe moyenne très riche, très très réduite, qui vit dans un confort extraordinaire, avec ce que vous avez. Et puis tout le reste des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté, dans des difficultés extraordinaires. Caracas, les 9/10 de Caracas, c'est des bidonvilles. Et il y a une inégalité d'une violence totale.
Et c'est la première fois qu'un président va prendre le problème à bras le corps. C'est la première fois qu'un président dit on va mettre les ressources pétrolières en particulier au service d'un projet social. C'est la première fois que cette partie de la population qui a toujours été ignorée, marginalisée, a le droit à la parole. Parce que le Allô Presidente,
c'est l'émission du dimanche animée par le président lui-même.
Chavez dit tout haut, à sa manière parfois un peu brutale, faut le dire, on peut lui reprocher ça, il pourrait être un petit peu plus diplomate, mais il dit tout haut ce que 70% de la population dit tout bas, et c'est qu'elle ne peut jamais exprimer, sauf depuis l'arrivée de Chavez, à travers les médias communautaires, les télévisions communautaires, des radios communautaires. Hein. Donc effectivement, c'est y compris, il faut le dire, Chavez n'est pas blanc. Chavez, c'est un métis, même sans doute zambo, c'est-à-dire descendant de Noirs, d'Indiens et d'Espagnols. Il est issu d'une famille d'humbles instituteurs. Il est très représentatif du peuple. Il est évidemment pas représentatif de la classe moyenne. Et évidemment, ça s'est reporté en particulier lorsque Chavez a créé ce qu'on appelait les cercles bolivariens, hein, qui sont des organisations de base destinées à repérer dans les quartiers quels sont les besoins immédiats, parce qu'on est dans une situation d'urgence sociale, de faire remonter l'information aux autorités compétentes, d'obtenir des crédits, des moyens, des techniciens pour, par exemple, recouvrir un égout à ciel ouvert, qui est un véritable problème pour les gamins, qui est un problème pour la santé, qui sont chargés de refaire le mur d'une école. C'est pas des méga projets, c'est des petits projets, mais qui améliorent la vie des gens.
C'est ça qui nous, Maurice Lemoine, c'est ça qui nous a frappé dans les reportages qu'on a fait là-bas avec Give et Antoine. Vous vous intéressez à Chavez, les médias français se sont intéressés à Chavez, est-ce que c'est un monstre, est populiste, c'est ses relations avec Cuba, etc. Ça y est, un dictateur, etc. Et nous, on va dénoncer ça. Mais peu se sont intéressés aux Vénézuéliens. Et c'est vrai qu'il y a une ébullition, il y a une effervescence, il y a un espoir, il y a une foi, il y a des initiatives extraordinaires dans ce pays. Il y a un peuple qui a choisi Chavez.
Chavez le dit lui-même, il dit « je suis pas la cause, je suis la conséquence ».
Oui, j'enregistre.
Si, c'est aggravant.
Par rapport à la situation ici,
en el barrio del sector La Selva, el ICE, la Pastora, el del AVE,
quand il y a eu la catastrophe,
il
y a eu beaucoup de maisons qui ont été emportées, quoi.
Entonces, esperamos la ayuda del gobierno, pues, para que nos ayude a sacar.
On attend l'aide du gouvernement pour qu'il nous aide à enlever le reste des décombres là qui sont là, qui encombrent.
Qui era como un boulevard.
Que ça reste comme un boulevard ici.
Et si va sur una placita, algo para que los niños jugaran.
Et qu'il fasse une petite place ici pour que les enfants s'amusent.
Y esperamos la ayuda del gobierno.
On attend l'aide du gouvernement.
No que traigan una cuadrilla de fuera, no, a trabajar, sino la misma gente de la comunidad.
C'est pas la peine qu'ils viennent avec des ouvriers de l'extérieur. Les mêmes gens du quartier ici peuvent le faire.
La misma gente de la comunidad, collabore, pues, y el gobierno le prête una ayuda o un pago.
Voilà, que le gouvernement paye des gens du quartier pour qu'ils réparent ici les dégâts.
Porque hay mucha gente que está desempleada ahorita, miren.
Hay plein de gens ici qui ont pas de boulot, quoi.
Esto del paro que hubo petrolero, pues, para la botella, que pararon el país, que hicieron para el país.
Ça, c'est depuis la grève et le blocus du pétrole, là, il y a tous les gens, ils sont sans boulot, quoi. Voilà. Ils ont bloqué le pays et maintenant.
Para ellos hacer lo que da la gana, pues, porque este señor, el presidente, está ayudando al pueblo, poniendo a estudiar a la gente con las misiones, Rivas, Sucre y.
Donc le président, il fait plein de choses avec les missions, Rivas, Sucre,
et à niveau universitaire.
Et au niveau universitaire aussi.
En la cual estoy estudiando yo en este momento.
D'ailleurs, moi, je suis en train de faire un cycle universitaire.
Tenemos una ayuda del gobierno.
Une belle aide du gouvernement.
Comedores para la gente que no tiene que debajo de recursos para la alimentación.
Pour les gens aussi qui n'ont pas de quoi manger, il y a la, la mise en alimentation là.
Maurice Lemoine, venons-en à ce bouquin. En fait, venons-en à ce bouquin. Ça, c'est juste quelques notes pour commencer à soulever la couverture du bouquin. Chavez Presidente, qui raconte une journée, enfin oui, qui décrit une journée avec des allers-retours, des avant et des explications en amont, sur ce 11 avril 2002. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et pourquoi vous étiez là?
Alors, pourquoi j'étais là? Bah, tout bêtement, parce que je fais mon boulot. Pourquoi à ce moment-là? Parce que déjà, depuis ici, depuis la France, on sentait que la tension était en train de monter. On va y venir. Et là, je veux dire, je fais rien d'exceptionnel, hein. Je fais ce que vous auriez fait si vous aviez été là-bas à ce moment-là. Convocation d'une manifestation de l'opposition le 11 avril au matin. Je passe ma matinée avec la manifestation de l'opposition. J'interviewe les gens, je marche avec eux sous le soleil. Je fais là-bas, bref, le boulot qu'on fait normalement. À midi, on arrive normalement au point d'arrivée de la manifestation qui est devant le siège de la compagnie nationale PDVSA.
Et à ce moment-là, la compagnie pétrolière.
Et à ce moment-là, les leaders de la manifestation, donc le patron des patrons, hein, le seigneur local, lance la consigne, tous à Miraflores, le palais présidentiel. Bon. Et là, on est dans une configuration détonnante. C'est comme si ici, une manifestation entre la Bastille et la République, d'un seul coup, était détournée vers l'Élysée en disant dehors Chirac. C'est ça, hein. Il y a des règles. Même en mai 68, je suis pas sûr qu'il y ait jamais une manif en France qui a été détournée sur les Champs-Élysées. Or, on sait, tout le monde sait, que parce que la situation est particulièrement tendue.
Si, il y en a eu que sur les Champs-Élysées, mais c'est pas contre l'Élysée.
Pas contre l'Élysée. Et on sait que la situation, évidemment, est extrêmement grave. C'est une manifestation d'opposition qui est belle, hein, qui est honorable. 400 000 personnes, 500 000 personnes, c'est une vraie manif, une vraie opposition. Mais on sait qu'il y a autour du palais présidentiel 40 000 sympathisants du président qui se sont massés autour du palais pour le protéger. Bon. Et donc, tout le monde comprend immédiatement que si ces deux masses se rencontrent, on va à la catastrophe. On va à la catastrophe parce qu'il va y avoir des coups, il va y avoir des horions, des asphyxies, enfin bon, c'est ce qui peut se produire dans ce cas-là. Donc, les dirigeants de l'opposition prennent délibérément le risque de provoquer cette catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il leur faut des martyrs. Parce qu'il leur faut des morts. Parce que jusqu'à présent, bien qu'ils aient clamé à tous les vents, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays, on est en dictature, Chavez est en train d'implanter le castro-communisme, ça tient pas. Bon, s'il y a des morts, d'un seul coup, c'est bon. Et pour être sûr qu'il y ait des morts, l'opposition a placé des francs-tireurs, des snipers, dans certains endroits clés, qui vont commencer à tirer sur les partisans de Chavez, faisant dans un premier temps 4 morts, et ensuite vont tirer sur les membres de l'opposition. Ce qui, évidemment, fait monter la température de 200 degrés. Et va avoir lieu un épisode qui est l'épisode clé, et bon, là pour le coup, la chance, faut quand même le dire, veut que je sois là, qui est l'épisode de ce qu'on appelle le Puente Yagún, ou un pont. Un pont qui surplombe une avenue, sur lequel sont massés des partisans de Chavez, qui sont pris à partie par les francs-tireurs, et qui sont pris à partie par la police métropolitaine. Alors là, on rentre dans la complexité de la situation vénézuélienne.
Et tout ça, c'est raconté dans le bouquin.
Oui. Parce que la police métropolitaine est entre les mains du maire d'opposition. Et que cette police métropolitaine, au lieu d'arrêter la manifestation, elle l'a encadrée dans sa marche vers le palais présidentiel. Et donc, ces partisans de Chavez qui sont sur le pont, pris à partie par les francs-tireurs et la police métropolitaine qui leur tire dessus, hein, ça tiraille, se mettent à plat ventre, se cachent, se planquent, c'est la panique. Hein, appelle à l'aide, appelle la garde nationale, que venga aquí la autoridad. Et vous avez 5 partisans de Chavez qui sortent des armes et qui se défendent. Et ils sont filmés par une caméra de télévision. Et dans l'heure qui suit, la télévision vénézuélienne, toute chaîne confondue, va retransmettre cette scène en montrant les partisans de Chavez qui tirent, sans montrer sur quoi ils tirent et en prétendant qu'ils tirent sur la manifestation de l'opposition qui en réalité est à 400 mètres de là.
Pasamos por el frente Miraflores, al norte está Palacio Blanco, pasamos por la oficina, por el despacho del presidente de la República.
Estamos
llegando
a Miraflores,
a este puente Yagún. Aquí fue se reunió la gente el 13 de abril. Defendió porque ellos, la policía la pusieron de avanzada para que viniera la gente del este a tomar el palacio.
Donc ils allaient avancer la police pour que les gens de l'Est, donc des quartiers riches, puissent eux accéder au palais et repousser ici les gens de ces quartiers plus populaires pour qu'ils puissent pas approcher.
Pour abrir ce campo para que entrara la gente de ellos a tomar el palacio.
Pour vraiment fermer la route.
Sí, porque la intención era tomar el palacio y matar al presidente.
Donc c'est là qu'ils voulaient en fait attaquer le palais de Miraflores pour tuer le président. Ils avaient menacé.
Y toda la gente defendiendo al presidente se vino al puente Yaguno.
Donc les gens sont venus ici pour défendre le président
à tratar d'éviter que ellos pasaran.
Pour éviter que les anti-chavistes passent et viennent au palais.
Tu es où, Jesús?
Aquí.
Bah, j'étais là.
Et abajo.
Bon, le tag qui a écrit fuera la CIA,
Sí.
Dehors la CIA.
Et j'étais ahí, aquí, bajando con Mauricio.
Avec Maurice, avec Maurice
Lemoine.
Sí.
Mais dis donc, mec, moi je crois que tu étais seulement un chauffeur de taxi, qu'est-ce que tu faisais là?
Yo estaba en otra cosa, defendiendo el proceso.
Non, moi j'étais en train de défendre le processus révolutionnaire.
Sí, desde que los Estados Unidos vienen explotando nuestro petróleo.
Depuis longtemps, les États-Unis sont
oponiéndonos a que ellos si continuaran sacando nuestra riqueza de la manera más impune, sin control.
Y continuer encore à nous prendre nos matières premières sans vergogne.
Alors, si je comprends, on est dans un taxi chaviste.
Taxista chavista.
Buenos días. Tenemos nuevo presidente.
Debo decirlo. Gracias, Venevisión. Gracias, RCTV.
Yo voy a decir una cosa. Y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión,
gracias medios de comunicación.
Alors ça, c'est un grand moment de ce coup d'État du 11 avril 2002. C'est le moment où les médias se félicitent entre médias. Pourquoi ? Pour avoir réussi ce coup d'État. Voilà. On se félicite, on dit on a été les meilleurs. Eh ben, manque de chance, le coup d'État va se retourner et Chavez va revenir au pouvoir. C'est ce que raconte Maurice Lemoine dans ce bouquin qui sort ces temps-ci, ces jours-ci, chez Flammarion. Chavez président, Maurice Lemoine.
Le lendemain, évidemment, tous les médias annoncent la démission de Chavez. Arrive ce qu'on connaît, c'est-à-dire le patron des patrons prend le pouvoir, dissout l'Assemblée nationale, les corps constitués, tribunal suprême de justice, la répression commence à s'installer, des gens que j'ai vus, y compris le taxiste léniniste, que je voyais la veille, sont tous cachés, je les rencontre, ils sont passés en 24 heures dans la clandestinité, c'est la peur qui s'abat sur Caracas. La population la moins politisée des quartiers pauvres commence à mettre la ville à sac, hein. Parce que les commerçants qui ont participé à la grève qui a précédé le coup d'État ont tous été repérés. On est dans une situation de chaos total, avec une véritable répression, des morts, des gens arrêtés, des gens des médias communautaires, etc. Et puis va se produire ce fait inouï, en fait, qu'on n'a jamais vu en Amérique latine. Le 13 avril, après avoir subi le choc, la population décide que c'est pas possible. On voit des femmes, moi je vois des femmes dans les rues de Caracas dire... Chavez, c'est mon président, je l'ai élu, c'est mon président, on veut pas d'autre président, c'est lui qu'on veut. Et va y avoir une mobilisation à la fois organisée et spontanée. C'est-à-dire que de tous les quartiers populaires vont descendre des masses et des masses de Vénézuéliens, on estime à 1,5 million personnes, une manifestation monstrueuse, énorme, que les télévisions ne montrent pas. Que les chaînes de télé, pendant ce temps-là, les chaînes de télévision passent des dessins animés, des recettes de cuisine, des matchs de baseball, on ne sait rien de ce qui se passe. Bon. Et les militaires, loyaux à Chavez, qui sont l'immense majorité, mais qui ont été trompés. Parce qu'à eux aussi, on leur a dit, mais regarde, il a fait tirer sur le peuple. D'un seul coup, prennent conscience de la situation et font savoir au haut commandement militaire, puisqu'en fait, les organisateurs du coup sont une soixantaine de généraux qui n'ont pas de troupes sous leur commandement. C'est l'état-major, c'est les généraux ventrus, aux genoux ronds, bardés de médailles et de décorations, mais qui au pire se sont blessés en changeant la route de secours de leur bagnole, hein, dans leur carrière militaire.
J'aime bien les genoux ronds.
D'un seul coup, les officiers qui ont des troupes sur commandement s'organisent et font savoir à ces putschistes que la constitution a été violée, qu'ils ne veulent pas d'une dictature et qu'ils veulent le retour du président. Et là, le rapport de force va s'inverser. Et une nouvelle fois, il faut au moins leur rendre cette, je ne vais pas dire hommage, le mot serait trop fort.
Justice.
Justice. Les militaires putschistes se rendent compte qu'on va à la guerre civile. C'est-à-dire qu'il va y avoir affrontement entre civils et civils, mais qu'il va y avoir aussi affrontement entre militaires et militaires. Bon. Et donc il recule. Et au cours d'une opération aéroportée, les militaires loyaux vont aller sortir Chavez de l'île de la Caraïbe dans laquelle on l'a confiné, l'île de La Orchilla, sur laquelle est présent depuis un certain temps un avion américain qui est là pour sortir Chavez du pays, un peu comme on l'a fait avec un président différent et dans des circonstances pas tout à fait les mêmes, avec Aristide. C'est-à-dire que le but, c'était de le faire sortir du pays. Si on ne l'a pas sorti tout de suite, c'est parce que on voulait qu'il signe sa démission avant, évidemment. Et comme il refusait de la signer, on a attendu jusqu'au dernier moment pour le sortir du pays. Et le dernier moment était trop tard parce que le commando aéroporté est venu le libérer. Et comme les putschistes ont cru que ça y est, c'était fait, que l'affaire était dans le sac, ils ont même pas pensé à changer la garde présidentielle. Ce qui fait que la garde présidentielle a repris le contrôle du palais pendant que la foule manifestait à l'extérieur. On est dans un roman d'espionnage. On est bon, je l'ai écrit un peu ce bouquin, Chavez Presidente, à la manière d'un roman d'espionnage. Mais le Venezuela est un roman. En même temps, faut lire un roman extrêmement sérieux, parce que ça a quand même fait une soixantaine de morts et des centaines de blessés, cette petite plaisanterie. C'était pas un coup d'État folklorique. Hein. Et puis, ça a jeté le pays, évidemment, dans une situation de trouble, d'émoi. Et puis, ça a aussi été le début d'une deuxième étape de déstabilisation, puisque malheureusement, l'opposition n'en est pas restée à ce coup d'État.
Et ne va pas en rester là. Quelles sont les chances aujourd'hui du Venezuela et de Chavez? Il y a des élections en 2006. Cette opposition, elle va pas s'être endormie. Elle a pas dû se rendre totalement à la conception et à la constitution bolivarienne. Il y a évidemment Washington qui a toujours un œil quand même assez attentif sur l'Amérique latine, sur son arrière-cour, comme on dit, et évidemment sur l'animal Chavez.
Oui, alors il y en a un qui a pas rendu les armes, c'est George Bush, second, évidemment. L'opposition, elle a pas rendu les armes, mais d'une certaine manière, elle est désarmée. Elle s'est désarmée toute seule, parce qu'elle a raté le coup d'État. Elle a ensuite raté une tentative de déstabilisation économique qui a eu lieu en décembre 2002, janvier 2003, qui a duré 63 jours, en particulier avec la paralysie de l'industrie pétrolière nationale. Bon, ça n'a pas marché. Alors d'un seul coup, l'opposition s'est souvenue qu'il y avait une constitution, et puis qu'on était dans une démocratie, et donc elle a eu recours à ce dont on peut dire qu'elle aurait dû avoir recours depuis le début, c'est-à-dire le référendum révocatoire. Puisque la constitution vénézuélienne permet à la mi-mandat du président, mais aussi des gouverneurs, des maires, des députés, de demander, si 20% du corps électoral le demande, de convoquer un référendum révocatoire. Et là, Chavez le gagne. Chavez le gagne avec 60,09% des voix. On nous a annoncé pendant 2 ans, médias vénézuéliens et médias européens confondus, que 70% des Vénézuéliens voulaient le départ de Chavez. Et ceux qui, modestement, en levant le doigt, disant « Écoutez, excusez-nous, mais on n'est pas persuadé que c'est complètement vrai », on s'est fait accuser d'être les suppôts de Chavez, payés par Chavez, j'en passe, c'est les meilleurs. Bon, Chavez gagne. L'opposition, elle est désintégrée. Alors je vais pas dire qu'il n'y a plus de leaders. Il y a des leaders, il y en a autant que de partis, et des partis, il y en a autant que de Vénézuéliens. Bon, d'opposition. Elle est désintégrée. Elle n'a pas de projet. Elle a qu'un seul projet, c'est sortir Chavez. Les élections se profilent en 2006. Chavez va les gagner. Si on prend les rapports de force, si on prend les programmes sociaux qui ont été mis en place, sur la santé, sur l'éducation, l'alphabétisation, la banque du peuple, la banque des femmes, le microcrédit, un certain nombre de choses, Chavez va les gagner. Ça veut dire qu'il est potentiellement au pouvoir jusqu'en 2012. Et ça, c'est absolument insupportable, et pour Washington, et pour l'opposition vénézuélienne. Par des moyens constitutionnels, on voit mal comment ils peuvent le sortir. Donc, sans tomber ni dans la paranoïa, ni dans le pessimisme le plus absolu, on peut considérer qu'il va y avoir des tentatives de coup pourri. Bon. Donc, il y a une situation qui permet de dire qu'effectivement, Chavez est menacé. Et il est d'autant plus menacé que, on l'a dit précédemment, il est devenu un des leaders prééminents en Amérique latine.
Voilà.
Alors, les Américains savent pas comment faire. Ils savent pas comment faire, parce qu'en même temps, le Venezuela est leur deuxième fournisseur de pétrole. Or, dans la mesure où ils sont déjà embourbés en Irak, ils peuvent difficilement prendre le risque de mettre le Venezuela dans une situation de chaos, ce que Chavez a eu annoncé, que si par exemple on l'assassinait, immédiatement il y aurait plus une goutte de pétrole pour les États-Unis.
Dollars.
ce qui est intéressant dans ce que vous dites et dans votre bouquin, je rappelle que c'est un roman, hein, le bouquin ne correspond pas à ce que vous dites. C'est-à-dire, le bouquin c'est une aventure, quoi. Ah, oui, c'est oui, un oui, roman. Oui. On suit, on se marre, on vit, on rigole plus. C'est un énorme polar avec toutes ces précisions et la connaissance parfaite et intime que vous avez, mais. Il faut dire que tout ça nous concerne ici, en Europe, en France. On peut dire, bon ben voilà, c'est formidable, c'est un beau livre, une belle histoire qui se passe dans un pays lointain, haut en couleur, c'est Amérique latine qui nous réserve toujours des grands personnages et des choses comme ça, amusantes, intéressantes, captivantes, etc. Mais ça nous concerne et ça nous regarde tout à fait. Parce que c'est le même néolibéralisme qui frappe là-bas et qui frappe ici. Là-bas, je veux dire, l'Amérique latine est frappée d'une manière beaucoup plus crue, beaucoup plus cruelle.
Oui, l'Amérique latine, on pourrait dire que c'est un double laboratoire. Ça a été,
voilà, laboratoire, oui.
Ça a été d'abord le laboratoire du néolibéralisme. Ça a commencé avec le coup d'État de Pinochet, hein. C'est pas par hasard. Pinochet fait son coup d'État, 73. Il fait appel aux Chicago Boys. Et c'est le Chili qui va devenir le pays dans lequel on va élaborer des politiques néolibérales, profitant du fait qu'on a cassé l'opposition, qu'on a tué, qu'on a fait disparaître, etc. Ensuite, ça va s'étendre à l'Argentine, avec le résultat qu'on connaît, et ça va s'étendre à toute l'Amérique latine. Donc, dans le premier temps, laboratoire du néolibéralisme. Et on peut dire qu'aujourd'hui, c'est le laboratoire de la résistance. C'est le laboratoire du non. D'une certaine manière, on peut dire que le non des Vénézuéliens à la révocation de Chavez, il a à voir avec le non qui s'exprimait récemment dans les urnes chez nous, à l'imposition d'une Europe néolibérale. Et que, dans le fond, peut-être que beaucoup de Français sont des bolivariens sans le savoir.
Voilà, merci Maurice Lemoine. Je rappelle encore une fois le titre de son bouquin « Chavez Presidente ». Aux éditions Flammarion, technique aujourd'hui Michel Thomas et Antoine Viossa, l'équipe de la base CJ Suisse, c'est Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Pascariello, Guy Vanctil et Christophe Imbert. Le numéro du répondeur de la base CJ Suisse, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. On se retrouve lundi pour la base CJ Suisse à 17h, dans 52 secondes, pas plus. Vous retrouvez Frédéric Bonneau et Charivari à lundi 17h. Bonne fin de semaine à tous. Salut.